Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Comme dans ta bulle, ton.com et comics. Et aujourd'hui, je suis au Pop Woman Festival. J'ai le plaisir de travailler avec Sylvie Bago, notamment sur une série d'interviews pour le compte Instagram du Pop Woman Festival, mais aussi de gérer le compte Instagram et de me faire un gros plaisir. Et sur ce podcast, de rencontrer Ovidie.
Ça va ? Bonjour.
Vraiment, je suis très contente de te rencontrer. Comment tu vas ?
Ça va plutôt pas mal.
Super. Est-ce que déjà tu peux peut-être te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ?
Donc je m'appelle Ovidie, je suis réalisatrice principalement de documentaires mais aussi de fiction. Et je suis aussi autrice d'essais, de fiction un petit peu aussi et de romans graphiques, de BD, voilà.
Et justement, est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours ? Parce qu'aujourd'hui, tu as énormément de casquettes. Comment tu arrives à jongler sur les différentes casquettes entre écrire, par exemple, ton dernier essai, puis ensuite repasser sur la série libre ?
Écoute, en fait, pour moi, c'est pas, je vois pas ça comme quelque chose d'éparpillé, en fait, ou une multiplicité de casquettes. En fait, pour moi, c'est un seul et même travail, en fin de compte, une seule et même œuvre, entre guillemets, sans prétention, quoi. Enfin, je veux dire...
Une cohérence au niveau
Tout est cohérent, puisque déjà la thématique commune, c'est la politisation de l'intime, c'est montrer en quoi l'intime est politique. Quand je dis l'intime, c'est pas que la sexualité, puisque j'avais travaillé aussi sur la question des violences obstétricales, donc comment notre rapport au corps en général est politique en tant que femme. Et pour moi, c'est ça mon fil rouge. Et donc après, on retrouve toutes ces thématiques. Enfin, cette thématique, on la retrouve partout dans tous les formats auxquels je peux toucher. Donc effectivement, ça va être de la BD, de la fiction. Mais finalement, la BD et par exemple la fiction filmée sur laquelle je peux bosser, c'est pas si éloigné que ça. Parce que dans la BD, il y a un truc qui est un peu scénar imagé. Moi, je vois les passerelles entre chaque œuvre, entre guillemets, enfin entre chaque ouvrage, enfin je sais pas comment il faut dire les choses, quoi, entre chaque livre ou chaque film, moi je vois une cohérence et mon fil rouge c'est le même depuis 24 ans maintenant.
Et est-ce que tu considères que selon le thème, même si c'est le même, il y a le support est peut-être plus adapté, à quel moment tu te dis bon d'accord ça va beaucoup plus parler dans le format de BD ou peut-être plus en documentaire ?
En fait il y a certains sujets précis où je me dis par exemple que je vais avoir plus de liberté, par exemple en documentaire radiophonique. Si par exemple je fais du documentaire radio, ça me permet d'aller plus loin dans certains entretiens, les personnes se livrent beaucoup plus facilement, on peut aller dans un récit de l'intime, c'est pour ça qu'on a longtemps dit que le podcast était le lieu de l'intime, etc., etc. Mais en fait il y a quelque chose qui est vrai là-dedans, c'est que quand on a juste un micro et pas une caméra braquée sur le visage, on raconte pas forcément la même chose. Et je me rends compte que pour faire accoucher d'une parole, le documentaire radio, ça permet d'aller plus loin, parce que les gens sont plus en confiance, parce qu'ils se mettent moins en danger, parce qu'ils vont pas avoir à affronter le regard du boulanger ou de la voisine le lendemain. Et en BD, disons que ça permet... Je ne sais pas si ça permet tant que ça de représenter... On a souvent un peu tendance à dire ça, en BD on a plus de liberté, ça laisse une possibilité de représenter des choses qu'on ne représenterait pas à l'écran. Pour moi, ce n'est pas tout à fait vrai... Mais ça me permet, je dirais, de bizarrement de penser mes storyboards en fait. Quand je passe de, c'est ça, le fait de bosser en BD. Alors moi, je suis autrice, je suis pas dessinatrice, donc c'est pas moi qui fait les découpages. Je participe au découpage, mais c'est pas moi qui ai la main complète sur le découpage. Mais ce travail, cette phase de travail sur le découpage, c'est une phase que je vais retrouver après quand je vais faire mon découpage avant le tournage d'une fiction, quoi, par exemple.
Et c'est comme ça aussi que tu as pensé l'évolution qu'il y a eu entre le livre libre et ensuite la série sur Arte.
En fait, ça m'a paru comme une évidence de décliner ça en série animée. Bon, déjà, il y avait toute la Bible graphique, il y avait tout le travail de Digley qui était là, en fait. C'est pas comme si on partait de zéro. Il y avait toute cette recherche graphique qu'elle avait effectuée avant. Et moi, ça me semblait un peu évident parce qu'en fait, le livre, c'est chapitré par thématique. Ouais. Voilà, la façon de s'habiller, le rapport au corps, le rapport au poids, le rapport au poil, etc., etc. Donc finalement, il y avait quelque chose d'assez évident dans chaque épisode. Donc, libre, c'est deux saisons de donc deux fois dix épisodes, donc il y a une vingtaine d'épisodes de 3 minutes 30 chacun. Et donc 3 minutes 30, c'était finalement un bon format pour approfondir pour chaque sujet particulier. Voilà, 3 minutes 30 sur les poils, 3 minutes 30 sur le rapport au corps, le gras, etc. etc. 3 minutes 30 sur la fellation et sa représentation, l'injonction à la fellation, etc.
Il y a un épisode que tu préfères ?
Ah, c'est une bonne question, ça. J'aime bien la deuxième saison parce qu'elle est peut-être un peu plus froide aussi par moments. Je dirais qu'on est plus énervé que sur... Ouais, entre-temps, il y a eu un peu le début du backlash. Et avec le début du backlash, Sophie-Marie Larouille et moi, on s'est retrouvés un peu plus énervés qu'on était sur la saison 1. Donc peut-être que les blagues sont un petit peu plus cinglantes, quoi, on va dire.
Du coup, tu mentionnais ton dernier livre, La chair est triste, hélas. Tu parles de sexe qui emprisonne, de couple hétérosexuel. Est-ce que tu considères que, encore aujourd'hui, le sexe est une prison ?
Ben, en fait, pendant super longtemps, on est parti du principe que le sexe a libéré. Et moi, j'ai fait partie des gens qui ont tenu ce discours, le sexe, ça permet l'émancipation, etc. Et en fait, je pense que pendant super longtemps, on a quand même mis de côté que le sexe était aussi une source d'aliénation, en fait. Et qu'il ne fallait pas le nier, que c'était quand même le lieu de toutes les inégalités. Et qu'il était temps de repenser ces rapports. Là, quoi, dans la chambre à coucher, que souvent on laisse l'intime à la porte de la chambre à coucher.
Mais j'imagine que tu as eu énormément de retours sur ça, parce que pendant longtemps, on a toujours considéré le sexe justement comme une partie de plaisir pour certaines personnes. Et donc là, de renverser un peu les choses.
Mais je sais pas, le livre, il est sorti il y a un peu moins d'un an maintenant. C'est ça, et en un an, j'ai reçu des milliers de messages, quoi. De nanas de tous les âges, plus jeunes que moi, plus âgées que moi. Mais je sais pas, je dirais de 17 à 80 balais, quoi. J'ai reçu vraiment des messages de plein de femmes qui me disaient se retrouver dans le texte, en tout cas ressentir la même chose.
Tu t'y attendais à autant de messages ?
Pas forcément, parce que quand on écrit dans son coin, on pense pas forcément à qui va le lire.
Est-ce que tu te considères aujourd'hui comme une activiste féministe ?
Oui, mais ça n'a pas changé. Hein.
Et ouais. Comment tu le vis tous les jours ?
Comment je le vis tous les jours, cet activisme-là ? Déjà parce que je ne peux plus regarder la société, le rapport à l'autre, les interactions sociales, les films, les livres, enfin tout, les chansons. Je ne peux plus regarder autour de moi sans mes lunettes de féministe. Quoi. Je vois tout le monde qui m'entoure, je le vois à travers le prisme du féminisme. Maintenant, je ne peux pas m'en empêcher. J'ai toujours cette machine qui décode tout d'un point de vue féministe.
Non, je la trouve super, cette machine, mais parfois, elle est difficile. Moi, j'ai toujours beaucoup regardé de films. Et tous les vieux films, j'y arrive plus. Je peux plus les voir. Des certains que j'aimais beaucoup quand j'étais jeune, qui du coup sont un peu nostalgiques pour moi, parce que c'est des films que je partageais notamment avec mon père. Maintenant, je ne peux plus les voir, parce que je vois trop de schémas, trop de choses qui me dérangent. Mais c'est bien, je suis OK avec ça, mais c'est un peu dur parfois.
Ouais, je comprends. C'est vrai que c'est un peu pénible. Après, c'est compliqué parce qu'après, on finit par ne plus rien regarder, ne plus rien lire. Oui. Donc parfois... mais c'est vrai, je comprends ton exaspération. Mais l'autre jour, je me faisais la réflexion, même par rapport aux films avec des chiens. Parce que moi, je regarde beaucoup de films avec des chiens, en fait. Films jeunesse, films d'horreur, films, enfin voilà, tous les films avec des clébards. Et en fait, c'est vachement intéressant parce que quand on regarde tous les films avec des chiens, on se rend compte que les répartitions genrées, elles sont catastrophiques, quoi. En fait, déjà, la quasi-totalité des héros chiens sont des mâles.
Ouais.
Et les deux pauvres femelles qu'on a eues dans l'histoire du film de chiens, c'est Belle et Lassie. Ouais. Et en fait, elles étaient doublées par des mâles à l'écran, de toute façon. Mais c'est marrant, on reproduit, même avec les films d'animation avec des animaux, on reproduit les mêmes stéréotypes de genre, avec une chienne, avec un beau poil long, doublé par une actrice avec une voix sensuelle, etc. Ça, un bon exemple, c'est Lilo Chien, je sais plus comment elle s'appelle, je crois, Nutmeg, il me semble, voilà, c'est une chienne de concours, elle est très belle, elle a le poil soyeux. Le héros mâle, lui, il est bagarreur, etc. Et en fait, on reproduit tous ces trucs-là jusque dans les films pour enfants, quoi.
Non, je suis désolée, je vais critiquer une sortie, mais je sais pas si t'as vu le film qui est sorti, Chien et chat.
Non.
Bah, du coup, c'est donc Léa un chien et le chat est une femelle. Et donc en plus, mais c'est la réalisatrice avait une chatte qui est décédée, a voulu rendre hommage avec ce film à cette chatte là. Mais on est vraiment dans le stéréotype où le chien mâle et puis du coup la chatte très très sensuelle, très princesse, etc. C'est encore très genré, quoi.
Ouais.
Il y a beaucoup le chat qui va être lié à la partie un peu féminine et le chien qui va être.
Le chien, il va être intrépide, il va être fort, il va être rapide, il va être malin, il va être musclé. Et puis la femelle, souvent aussi dans les films, sa fonction, ça va être une fonction de génitrice. Ouais. Genre comme dans Beethoven ou même dans L'île aux chiens par ailleurs, où il y a un des persos qui n'a que cette fonction-là, c'est faire des petits aux héros, quoi.
De quoi t'es la plus fière ?
Ouais, je sais pas. De quoi je suis la plus fière ? Je suis fière de mon Emmy Award et je suis fière d'avoir un jour posé en une du Times Magazine avec un chien qui était mon chien préféré qui s'appelait Raziel. Je suis fière d'avoir fait ça avec Raziel.
La thématique de ce podcast, finalement.
Thématique canine. Ouais.
Du coup, j'ai quelques petites questions autour de la communication pour toi. Ouais. Quelle est ta vision un peu des réseaux sociaux ? Comment toi tu les utilises ? Qu'est-ce que t'en penses ?
Je déteste les réseaux sociaux. J'y suis parce que j'y suis contrainte. Et j'y suis toujours. Instagram, je suis arrivée sur Instagram avec énormément de retard, des années de retard. Et en fait, je l'ai fait parce que quelqu'un avait créé un faux profil à mon nom. J'ai fait la même chose pour Facebook et la même chose pour Twitter. J'ai plus de compte Facebook depuis des années et tout ça, mais je me souviens à l'époque, je me suis mise à Facebook parce qu'on avait créé un faux profil Ovidi. Après, quelqu'un a créé un faux profil Twitter, donc j'ai créé un profil Twitter. Et après, quelqu'un a créé un faux profil Instagram, donc j'ai créé un profil Instagram. En fait, je ne suis sur les réseaux sociaux que parce que je veux pas que quelqu'un d'autre y soit à ma place et se fasse passer pour moi. C'est juste ma seule motivation. Pendant longtemps, j'étais assez active sur Twitter parce que je trouvais que c'était un lieu de circulation de la pensée. Je trouve que là, maintenant, ça devient compliqué, la circulation de la pensée sur Twitter. Et d'ailleurs, il y a énormément de militants qui ont déserté Twitter. Donc, je poste de moins en moins de choses sur Twitter. Et sur Insta, de temps en temps, je pose des photos de mon chien. Et puis, je reposte des photos qu'on m'envoie de la chérie triste ou des trucs comme ça, quoi.
Alors, c'est peut-être parce que moi, j'en consomme beaucoup, mais est-ce que tu le vois un peu toute l'émulation qu'il y a au niveau du féminisme sur Instagram, ouais. Qu'est-ce que t'en penses ?
Je trouve ça bien. Je trouve ça bien parce que c'est des espaces qu'il faut s'approprier, c'est des espaces qu'il faut occuper. Donc c'est bien que les féministes occupent cet espace-là, quoi.
Dernière petite question, parce que je dois te libérer. Donc, on est au Pop One Festival. En quoi c'est important pour toi d'avoir ce type de festival en France aujourd'hui ?
Je trouve ça chouette, je suis contente d'être là. Et il me tarde d'aller écouter des trucs et d'assister à la lecture ce soir de Lola Lafont.
Ouais, enfin, voilà, ça va être chouette.
En fait, j'avoue que c'était une de mes motivations, de me dire, ah, enfin.
Super. Bah, merci, Ovidi, pour ce petit moment.